continuer pour cette deuxième partie. On se gardait encore la partie sur les évangiles dont on n'a pas encore parlé, de dire mais il y avait une autre question, enfin il y avait deux questions qui allaient dans ce sens-là. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de disciples femmes ? Cela aurait peut-être permis qu'elles soient mieux mises en valeur et écoutées dès le début. Donc, oui, des femmes assistaient Jésus, mais je parle de cette relation intime qu'avait Jésus avec ses disciples parmi la foule de disciples. Alors, effectivement, Jésus est entouré de 12 disciples et de quelques femmes, nous dit l'Évangile, qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Il n'y a pas de femmes parmi les 12. C'est un choix qui n'est pas commenté. Donc là, encore une fois, le texte, si on parle strictement du texte, le texte ne dit pas on a choisi 12 gars parce qu'ils avaient des traits virils. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça la question. Le texte ne commente pas ce choix de Jésus de choisir 12 hommes. Donc on peut avoir plein d'idées à ce sujet-là, mais en tout cas, on ne peut pas avoir de réponse textuelle à cette idée-là. À mon sens, et je pense que c'est une interprétation qui est largement partagée, Jésus rassemble les 12 tribus d'Israël. Enfin, il y a des symboles, donc il rassemble un groupe de 12 hommes, symbole des 12 nations d'Israël, 12 tribus d'Israël. Ça me semble être l'explication la plus plausible. De s'arrêter au fait qu'ils étaient hommes, pourquoi pas, ils étaient juifs aussi, est-ce qu'on doit s'arrêter là-dessus ou pas, etc. Enfin, ça soulève d'autres questions. Mais la question comme elle est posée, elle m'a un peu piquée, parce que cette relation intime qu'avait Jésus avec ses disciples. Alors oui, d'un côté, par rapport aux 12, et en même temps, quand on lit les évangiles, on est quand même assez surpris de avec qui Jésus a réellement des relations intimes, comprenez-moi bien, avec qui Jésus a cette intimité, cette rencontre profonde et percutante. Quand on compare les différents évangiles, on a quand même différents contrastes qui ressortent. On voit que dans l'évangile de Marc, les femmes ont une place prééminente. Les 12 disciples, ils comprennent rien du tout à ce qui se passe. On a l'impression que c'est avec les femmes que ça se passe. Donc, est-ce que vraiment, on peut dire qu'avec les 12, il avait une relation beaucoup plus intime que ce qu'il avait avec les femmes qui sont racontées dans les évangiles ? C'est une question que je crois qu'on peut largement laisser ouverte. Dans l'évangile de Jean aussi, les 12, ils jouent des rôles de figurants. Et c'est les femmes qui jouent les rôles clés. À chaque fois que l'histoire bascule, c'est les femmes qui sont là. Voilà, la seule personne qui gagne une joute théologique avec Jésus, c'est la femme syrophénicienne. Donc c'est la seule qui réussit à rentrer dans un vrai débat, on pourrait dire, de maître-disciple, en tout cas avec une intensité qui fait que Jésus se laisse interpeller. Et j'aimerais aussi souligner que Jésus, dans toutes ses rencontres, et c'est quand même assez important, il ne rappelle jamais à une femme qu'elle n'est qu'une femme. Jamais il réduit la personne qu'il a en face de lui à son genre. Il ne marque pas une différence, ou bien on pourrait même dire, certaines comme Christine Pedotti ont dit « Jésus l'homme qui préférait les femmes ». Il marque, en tout cas si on devait parler de préférence, plutôt de la positivité par rapport aux femmes que par rapport aux hommes. Il ne dit jamais que la mission spirituelle d'une femme, c'est de soutenir son mari et de s'occuper de ses enfants. Quand il s'adresse à une femme, il ne lui dit pas « Où est ton mari ?» par exemple au puits, il ne lui dit pas « Attends, je vais parler à ton homme parce que j'ai des trucs à te dire. » Jamais. Il va directement, il se place en vis-à-vis. Selon moi, c'est une juste compréhension du texte de la Genèse. Il considère les femmes comme des vis-à-vis tout au long de son ministère. L'apôtre Luc aussi fait des binômes homme-femme à chaque fois qu'il raconte une histoire. On voit... il y a Zacharie, il y a Marie, il y a toujours ces binômes, vous pouvez aussi le retrouver dans tout l'évangile de Luc. Donc il y a dans les évangiles quelque chose d'incroyable qui se passe en termes de rapport homme-femme et qui est pour le coup beaucoup plus clair que ces textes obscurs dont on a parlé avant. Mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur moi.
Forcément. je reprends ce que tu dis parce que moi j'ai été plutôt choquée par certaines réactions que Jésus a vis-à-vis des femmes. Ira Broumart quand elle lui demande de l'aider pour sa sœur. Il est un petit peu rustre avec sa mère à Cana, au moment du mariage, quand elle veut qu'il agisse. Donc il a des réactions, on va dire, saines. Et c'est presque choquant pour nous. Il n'est pas galant, il n'est pas d'une gentillesse exquise. Et ça montre que les évangiles ne sont pas idéalisés, que ce n'est pas une écriture idéalisante. C'est assez authentique, me semble-t-il, la manière dont les rédacteurs des évangiles rapportent ce que dit Jésus et ce que fait Jésus, bien qu'on sait, enfin, on pense, mais je pense que c'est logique, que les évangiles sont écrits après, vu que du temps où Jésus lui-même vivait, on n'a pas écrit, on a écrit après sa résurrection. Donc, on écrit des choses qui ont continué à être transmises, et Jésus, dans les esprits, a marqué par ses réactions. Mais au fond, c'est précisément qu'il les traite comme des interlocutrices. Il ne prend pas des gants en disant « il faut que je prenne des égards parce que c'est une femme, attention ». Non, il leur parle normalement, en ayant des réactions. Et puis, évidemment, il y a le stratagème de la manière dont l'évangile est écrit pour montrer que Jésus provoque ses interlocutrices. Il provoque Marthe pour qu'elle aille plus loin. Il provoque Marie pour montrer que son signe est ailleurs que là où elle l'attend. Et donc c'est aussi une manière de renvoyer plus loin. Et ce que je trouve aussi très intéressante, c'est qu'on a les noms des femmes. Il y a des femmes inconnues qui n'ont pas de nom, la syrophénicienne ou bien la samaritaine, parce que ce qui est important, c'est leur statut d'étrangère. Et vous voyez ce que j'ai dit par rapport à la femme étrangère dans la sagesse. Jésus, dans son attitude, ne respecte pas ce que disent les écrits de sagesse, qu'il faut se méfier de la femme étrangère. Intéressant. Mais ces femmes étrangères-là n'ont pas de nom, alors que d'autres ont des noms, et ça c'est très très important. On a conservé les noms de ces femmes pour dire au fond qu'elles avaient un rôle. Et pour moi, le fait qu'il n'ait pas pris de femme parmi les 12 est logique, à une époque où la parole des femmes n'avait pas d'autorité. Et elles n'étaient même pas, comme on nous le dit maintenant dans l'histoire, elles étaient considérées comme mineures par la justice. Donc elles n'avaient pas de vrai pouvoir. Qu'est-ce qu'elles auraient pu faire? Elles auraient été traitées comme des femmes de mauvaise vie si elles avaient suivi Jésus en abandonnant. Certainement, en plus, elles n'auraient pas été des femmes seules, sauf Marie-Madeleine, ou peut-être l'une ou l'autre qui était peut-être veuve, on n'en sait rien. Si elles avaient suivi Jésus comme ça sur les routes, qu'est-ce qu'on aurait dit d'elles? Donc voilà. Mais je pense que là, c'est intéressant de voir qu'il y a cette authenticité des évangiles qui ne cherche pas à enjoliver et qui du coup montre comment Jésus surmonte les stéréotypes pour les prendre vraiment comme interlocuteurs.
Ça va, on a
on pourra voir après s'il y a des questions par rapport au...
On avait quelques questions de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'Église, fait que la place des femmes n'a pas été défendue? Qu'est-ce qui, dans cette histoire, a fait qu'on a oublié le message libérateur de Jésus pour tous et pour toutes? Et puis, une autre question qui va dans le même sens. Si on regarde la Bible en entier, c'est un message de libération et de dignité pour les femmes. Alors comment peut-on expliquer qu'une majorité de chrétiens s'insèrent à travers les siècles et interpréter la Bible comme mettant une hiérarchie entre les hommes et les femmes? Tradition culturelle, d'interprétation, société patriarcale, qui a projeté des données extérieures sur le texte, peur de perdre des privilèges. Ok, mais personne ou si peu de gens n'ont donc été remis en question par l'esprit à la lecture des textes. C'est vrai qu'on a tendance un peu à voir en monobloc de dire voilà, l'Église n'a jamais, etc. Encore une fois, je trouve qu'on gagnerait à être plus sensible à ce qui s'est passé. À chaque fois qu'on voit la naissance d'un mouvement de renouveau dans l'histoire du christianisme, il y a cette question qui est reposée à plat, et il y a des femmes qui s'engagent, et on voit des femmes qui émergent avec des hommes, etc., jusqu'au moment où les structures commence à s'asseoir, où il y a une institutionnalisation, et là, première chose, on dégage les femmes, et puis on crée des structures masculines. Pour moi, et je crois que c'est quelque part aussi Il y a aussi des conséquences sur nos pensées qui nous permettent aussi d'être plus ou moins sensibles à la voix de l'esprit. Pour moi, et je suis prête à en débattre, je ne sais pas si c'est le sujet aujourd'hui, mais il y a eu une corruption majeure de l'Église avec les pouvoirs temporels. Sous Constantin, l'Église a fusionné avec le pouvoir temporel, donc l'Église et État ne formaient qu'un, c'est-à-dire que le pouvoir du puissant, ça devenait le pouvoir de l'Église, donc l'armée défendait l'Église, l'Église défendait l'armée, on a les sacrements, hein, Charlemagne et d'autres dans les cathédrales, donc on a une vraie fusion de l'Église et de l'État sur la question du pouvoir. Et ce que ça a créé, c'est des hiérarchies énormes entre clergé et laïc, il y a les dirigeants, il y a les seigneurs et les vassaux, hein, autant dans la société laïque que dans la société religieuse. On a fait la même chose homme-femme, on a encore bien marqué cette différenciation-là. Donc on a, en fait, à mon avis, l'histoire du christianisme a été fortement marquée par une forme d'aveuglement qui, pour moi, relève de l'ordre de la domination, donc que j'appellerais péché, qui a rendu en partie aveugle ou dans l'incapacité de voir qu'une question de vis-à-vis serait, enfin qu'un vis-à-vis serait possible entre clergé et laïc au sein de l'Église. Pourtant, on a des communautés qui sont fondées sur le corps du Christ, pas sur les ministères, dans les Églises protestantes et évangéliques. Donc on a quelque chose de réciproque, d'interactif, de collaboratif dans les Évangiles qu'on retrouve, qu'on a perdu, mais aussi dans cette collaboration homme-femme qui a été fortement marquée. Et à la Réforme, on a dégommé cette différence majeure entre clergé et laïc. En tout cas, c'est ce qu'ont essayé de faire les réformateurs en insistant sur l'Église universelle, etc. On a, à la Révolution française, en tout cas pour l'histoire française, on a dégommé les seigneurs et puis on a essayé que le peuple ait son mot à dire en démocratie, etc. Et aujourd'hui, on s'interroge sur la question homme-femme. Mais c'est toujours cette question de hiérarchie détricotée qu'il nous faut attaquer, qui pour moi est une conséquence majeure de ce qui s'est passé sous Constantin au IVe siècle et qui a figé les hiérarchies au détriment de l'Église, il me semble, et qu'on doit réinterroger aujourd'hui.
Tu veux peut-être... Oui, alors je souscris tout à fait à ça, et ça c'est un élément majeur. Et un autre élément, c'est celui que tu as déjà évoqué, mais sans le développer davantage, c'est que, à mon sens, tout mouvement religieux, dans ses débuts, et en particulier le christianisme, a une force de transformation et aussi à l'interne une force de partage communautaire, ici entre hommes et femmes, esclaves, hommes libres, etc. Et après, au fur et à mesure qu'il doit s'installer dans la durée, il se réinstitutionnalise, tu l'as dit au début, mais on le voit bien dans les épîtres, comment ça s'institutionnalise. Alors ici, je pars maintenant d'une lecture qui est la lecture plus historique, qui est plus défendue dans les églises luthériennes et réformées que dans les églises évangéliques, la lecture historico-critique, c'est-à-dire qui essaye de montrer les époques historiques. Donc, alors, vous pouvez, que vous l'acceptiez ou non, ça, c'est pas la question, c'est plutôt que ça éclaire une, ce qu'on voit, c'est que par exemple, les épîtres à Timothée, 1 et 2 Timothée, sont d'une époque plus tardive, parce qu'on montre que les communautés commencent à s'institutionnaliser. Et alors on installe des épiscopoi, des épiscopes, des presbytéroi, donc des qu'on a appelé plus tard des prêtres ou des pasteurs. Puis on a les anciens. Donc on a un système de communautés organisées qu'on ne semble pas avoir, du moins dans les premières lettres de Paul, qui sont les plus anciennes, qui est Thessalonicien, qui est la plus ancienne des lettres, et puis Galates, qui sont vraiment des lettres anciennes de Paul, premières, hein, des premiers de 50 ou des années 50. On n'a pas du tout cet ordre hiérarchique. Et évidemment, quand s'installe un ordre hiérarchique, il y a les veuves, les femmes seules, on les met dans les groupes de veuves, pour qu'elles ne soient pas trop influentes, qu'elles ne prennent pas trop le pouvoir, ou qu'elles ne soient pas séductrices pour les hommes mariés. Donc voilà, on voit les groupes de veuves et ça aussi, ça apparaît dans tous les mouvements. On le voit à la Réforme. Au moment de la Réforme, on a des femmes qui prêchent. Catherine Zell à Strasbourg, on a Marie d'Antière à Genève,
on a des femmes qui sont très très importantes au moment où les réformateurs développent leur message, et puis petit à petit on va refermer leur liberté parce qu'elles sont trop, comment dire, elles échappent aux catégories et ça fait peur. Et tous les mouvements qui s'institutionnalisent referment les écoutilles.
Donc la vraie question, c'est comment est-ce que l'Église, qui traverse les siècles, peut s'institutionnaliser sans perdre le cœur du message ? C'est une vraie question avec laquelle on chemine tous dans nos unions d'Église. Et ça souligne aussi le fait que nos lunettes culturelles, on peut parfois dire « Ah, on est dans une époque comme ça, où on est influencé par le féminisme, etc. » Et c'est pour ça qu'on pose... C'est moi qui le dis.
Je crois que c'est ça qui bouge. Oui.
On est dans une époque où on pose des questions au texte qu'avant on ne posait pas. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on est juste corrompu par le monde, si on veut reprendre ces catégories-là ? Et ce qu'on peut souligner avec ces exemples-là, c'est de dire « Non, on est toujours... » sous l'influence d'idéologies extérieures, toujours. La question, c'est comment est-ce qu'on retrouve le sens du message ? Et cette question, elle est posée toujours, par rapport à toutes les idéologies, que ce soit le féminisme libéral, que ce soit ou certaines questions du féminisme qui doivent toujours être revisitées par les écritures, que ce soit le marxisme, que ce soit, etc. Il y a dans toutes ces idéologies-là, il y a des idées qui rejoignent et des idées qui doivent être critiquées à la lumière des textes bibliques. Donc tant que le texte biblique il est un outil instrumentalisé, qu'il n'est pas extérieur à nos idéologies, on a un problème, que ce soit le patriarcalisme ou le féminisme d'ailleurs. Mm-hmm. Enfin voilà, juste pour que ce soit clair, ça veut dire que ces lunettes culturelles, on les a, et c'est bien d'en prendre conscience.
Oui. Oui. Et que
précisément la foi chrétienne nous incite à relire critiquement précisément à la fois les institutions extérieures comme nos propres institutions et nos propres stéréotypes. Stéréotypes de pensée. Et je trouve intéressant que dans le protestantisme, nous ayons l'ensemble de la Bible et pas juste des lectures sélectives. Parce que c'est précisément aussi, peut-être on peut ajouter cet élément aux développements historiques, c'est que le christianisme s'est habitué à avoir des lectures sélectives. C'est-à-dire on a valorisé, ou hiérarchique, on a valorisé tel texte par rapport à tel autre. Par exemple, Genèse 2 et 3 plutôt que Genèse 1. C'est-à-dire la femme tirée de l'homme plutôt que homme et femme, il les créa, mâle et femelle, il les créa. On a plutôt valorisé le 2, on va savoir pourquoi. Ou alors on a valorisé aussi femme, soyez soumise à vos maris, en ne sortant que le verset et pas l'autre aspect du verset, mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Donc déjà ça, on a coupé une moitié du verset et ensuite on l'a hiérarchisé par rapport à Galates 3. Qui dit, vous tous qui avez été baptisés, vous êtes un en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre. Ça, c'est un des versets les plus puissants. Et c'est Galates, c'est vraiment une épître première de Paul. Et donc, c'est vraiment le feu du mouvement de l'évangile encore dans ses débuts. Et on a coupé Galates et on a valorisé Éphésiens, qui est plus tardif, enfin, d'après les analyses historiques. Et Éphésiens 5 établit. Quand même, d'une certaine façon, quand on le lit sélectivement, une hiérarchie. Alors ça, c'est des exemples qui montrent comment on a idéologisé la lecture, comme tu l'as dit.
Ouais, c'est quelque chose qui est... C'est un travail qui est permanent, en fait, dans toute notre vie, et pas que sur ce sujet-là, de pouvoir se laisser réinterpeller par le texte, mais ça demande qu'on le lise, hein, on parlait de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on lit encore le texte biblique ? Ça demande de le lire, mais plus encore, ça demande de le fouiller, de l'approfondir pour que notre foi, elle soit ancrée dans ce texte, en Dieu, qui est extérieur à nous et pas juste dans tous les courants et vents de pensée qui nous traversent. Je ne sais pas si on arrive jamais au bout de ce travail-là, mais en tout cas, je crois que c'est le travail de renouvellement de l'intelligence dans lequel l'Esprit nous accompagne en tant que chrétien. Je crois que c'est quelque chose qui est l'œuvre de Dieu aussi, en nous, et puis on n'est pas tout seul avec ces questions-là.
Je crois que je vais peut-être dire quelque chose sur le corps, oui. Qui a été important aussi, mm-hmm. À moins que tu veuilles encore
dire. Très bien.
Alors, on s'était entendu que je dirais aussi un mot de la question du corps, parce que ce qui a été problématique aussi dans les relations hommes-femmes, c'est la manière dont on a considéré le corps des hommes et le corps des femmes. Et à vrai dire, il faut partir du début. La Bible hébraïque, elle ne dit pas que l'être humain a un corps, il a une âme et il a un esprit, mais que l'être humain est un. C'est-à-dire, c'est une pensée unifiée, corps, âme, esprit, il n'y a pas de... c'est un être animé du souffle de Dieu, voilà. Ça, c'est la pensée hébraïque. Et donc, quand on a les textes de la création, et quand on parle de l'être humain dans la partie hébraïque de la Bible, on a cette conception. Quand on passe au Nouveau Testament, on est dans le monde de la pensée hellénistique. Et cette pensée qui a beaucoup influencé l'Occident, beaucoup plus que l'Orient et le monde, d'autres mondes, africains ou asiatiques, la pensée occidentale, elle est marquée par la pensée hellénistique, de ce cloisonnement corps, âme, esprit, qui a été très influent dans les premiers siècles du christianisme. Influent dans le sens qu'on a mis d'un côté le corps, puis de l'autre côté l'esprit, l'intelligence, la raison, et puis quelque chose comme le côté où loge la spiritualité, qu'on a appelé l'âme par la suite. Mais c'est là qu'on trouve, dans les premiers siècles, les pères du désert qui vont s'isoler dans le désert, les ermites, et qui veulent, restreindre les besoins du corps pour augmenter leur faculté spirituelle, pour se rapprocher de Dieu. Et donc c'est dans un premier temps réservé aux hommes, dans la mesure où on a considéré alors que le corps de l'homme est plus proche du divin quand il vit comme ça, de manière orientée sur Dieu. Et les femmes pouvaient vivre cette vie aussi d'ermite dans le désert, donc à condition de renoncer à tout, et aussi au fait de renoncer à être femme. Il fallait qu'elles soient, comme disent certains textes, comme les anges. C'est-à-dire, au fond, oublier le corps des femmes, qui était entre-temps devenu un corps, soupçonné d'être impur. Alors, impur, vous voyez d'où ça vient, ce sont tous les tabous antiques concernant le sang, concernant la question du péché, le siège, on ne savait pas très bien d'où venaient les enfants, alors la sexualité, c'était évidemment porté sur la femme. Donc, toutes ces emprises liées à des stéréotypes et des tabous culturels se sont focalisées sur le corps des femmes. Ajouté à ça, l'un ou l'autre philosophe qui ont une grande influence, comme Aristote, qui considérait que je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans tout un développement scientifique, il considérait que les femmes sont des hommes. Pourquoi il y a des femmes, d'après Aristote? Parce que la gestation n'est pas arrivée à terme, et donc c'est raté. C'est un homme, on va dire, manqué. Hein, l'expression « le mâle manqué », c'est d'Aristote, et elle a eu une longue histoire. Donc on ne comprenait pas d'où venait le fait qu'il y ait des femmes. Alors je parle là de la philosophie qui n'est pas dans le christianisme, hein, c'est tout à fait... Mais elle a eu une influence sur l'idée qu'on a considéré chez les pères de l'Église que forcément, à cause de Genèse 2, de la femme créée en second, et à partir de l'os de mes os et la chair de ma chair d'Adam, elle n'est pas tout à fait dans la plénitude de l'image de Dieu. Donc vous avez toute une littérature des pères de l'Église, comment la femme n'est pas image de Dieu en plénitude. Elle est du point de vue de la grâce, en Christ, elle est pleinement sauvée, mais dans le monde, elle n'est pas complètement du point de vue de son... Du point de vue de son âme, elle est très bien, mais du point de vue de son corps, ce n'est pas exactement la même plénitude que l'homme. Et donc, vous voyez, avec ce handicap, la femme a été mise du côté du corps, assimilée un petit peu à tous les troubles et à toutes les idées et les stéréotypes liés à un corps inférieur, en plus avec une raison un peu défaillante. Forcément, elle n'était pas instruite, les femmes instruites étaient des exceptions dans les sociétés, et même s'il y a eu toujours à toutes les époques des femmes d'exception, on va dire, avantagées par leur culture ou par leur rang ou par la situation historique où elles se trouvaient, il y a eu des femmes avantagées, mais elles étaient des exceptions. Et donc on a une longue histoire de dévalorisation du corps et donc des femmes. Et ça, ça a vraiment joué dans le christianisme occidental, plus que partout ailleurs. À vrai dire, dans beaucoup de religions, il y a ces tabous, mais on se contente ici du christianisme. Et la question de la pleine image de Dieu, elle est restée jusqu'au Moyen Âge, une question. Jusqu'où est-ce que la femme est aussi pleinement image de Dieu, comme le dit Genèse 1, que l'homme. Et si on avait lu Genèse 1, il n'y avait même pas de discussion. Mais comme c'était contrebalancé par des lectures sélectives d'autres textes, c'est exactement ce que Marie-Noël a dit. On a lu les textes de Genèse avec la projection d'autres textes, comme par exemple 1 Timothée 2-3, que la femme sera sauvée par sa maternité, ce qui est insensé, qui est une contradiction totale avec le salut en Christ, totale. Donc voilà, on a contrebalancé, et ces effets de lecture ont été très très dévastateurs pour la compréhension des relations hommes-femmes.
Et juste pour être au clair, parfois on a l'impression qu'il y a la vision traditionnelle des rôles qui a toujours existé et qu'aujourd'hui on a une nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui croit, qu'il n'y a plus aucun théologien en tout cas que je connais qui défendrait une infériorité de valeur des femmes. Mais la première déclaration de l'Église qui a dit ça, que les femmes ne sont pas juste un mal manqué ou qu'elles sont par nature inférieures et qu'elles doivent être sous la tutelle d'un homme, la première fois que l'Église l'a dit, c'était en 1957, déclaration de Pie XII. Donc c'est pour dire qu'on est aujourd'hui quasiment dans toute l'histoire de l'Église, dans tous les endroits sur Terre, des gens diraient, mais ils hallucineraient qu'un John Piper ose penser que hommes et femmes sont de valeur égale. Donc ça, c'est une idée nouvelle. Donc même dans la position traditionnelle, il y a quelque chose de fondamental qui a changé sur cette question de valeur homme-femme, qui aujourd'hui n'est plus du tout questionnée. Le fait que, bien sûr, hommes et femmes sont ensemble à l'image de Dieu, c'est ce que dit Genèse 1, c'est aujourd'hui quelque chose qui est accepté par tout le monde, alors que ce n'était pas le cas. À mon sens, on essaye d'être conséquente avec les fruits de ce changement-là, c'est-à-dire que si on considère que hommes et femmes sont de même valeur devant Dieu, qu'ils sont ensemble à l'image de Dieu, et alors ça implique quelque chose aussi par rapport au rôle. Ce que la position traditionnelle refuse de continuer le processus, donc change les racines mais veut garder les fruits. Moi je pense que ça ne tient plus, en tout cas c'est ce que je défends aujourd'hui. Et je crois qu'on a quelque chose d'important à repenser par rapport aux stéréotypes de genre, ou en tout cas au rôle qu'on assigne au genre. Et ça, c'est vraiment le fruit de notre histoire. Mais voilà, il n'y a pas de ligne directe entre les Écritures et aujourd'hui la position traditionnelle. Il y a une rupture massive qui a eu lieu au début du siècle. Ouais. Je pense que ça, c'est quand même bon de souligner aussi. Ouais.
Tout à fait.
Je peux peut-être continuer sur la question
absolument,
du genre.
Absolument.
Je ne sais pas combien. 2 minutes 3 Ouh. Je ne vais peut-être pas continuer sur la question du genre.
J'y reviens aussi.
Tu reviens aussi.
Tu peux dire, si dis quelque chose, parce que tu dois partir après et moi je pourrais toujours.
Voilà. Alors, il y a un article de Tim Kruger qui travaille pour Christians for Biblical Equality qui m'a beaucoup stimulée sur cette question. Égal, c'est-à-dire égal en valeur et pourquoi pas en rôle, ça ne veut pas dire identique. Oui. Ça, je crois que c'est une première chose qu'on peut souligner. Une égalité, ça veut dire pour moi, et c'est le dictionnaire, égalité de nature, égalité d'opportunité. Ça ne veut pas dire égalité au sens mathématique, interchangeabilité. Ça, c'est première. Deuxième chose, il y a des différences entre hommes et femmes, il y a des différences dans la moyenne. On l'a vu dans les textes bibliques, il y a une pluralité de femmes qui sont femmes à leur manière, d'hommes qui sont hommes à leur manière, et le texte biblique est beaucoup moins dérangé par ça que nous le sommes parfois quand on le lit. On est clairement différents, en tout cas globalement on va dire, parce qu'il y a des particularités dans nos ADN, dans nos organes génitaux, dans nos systèmes reproductifs, sur le plan biologique, et on peut dire aussi que sur le plan psychique, il y a aussi certaines différences, mais encore une fois là on compare des moyennes. Si vous avez déjà fait des statistiques, quand on observe un groupe d'hommes ou de femmes pour savoir ce qu'est la féminité ou la masculinité, ça fait une courbe, comment on appelle ça, Belle comment ? D'accord, voilà. Une courbe de Gauss et une courbe Gauss. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on fait une courbe des comportements masculins et une courbe des comportements féminins ou du psychique, et ben en fait, elles ont plus de choses en commun que de choses différentes. Donc ça, c'est sur le plan de l'observation. Est-ce qu'on doit rester figé dans une moyenne? Est-ce qu'on doit dire, ben, moyennement, une femme doit être ça? Est-ce qu'on doit se dire, ben, moyennement, en Suisse, il fait 17 degrés, donc habillons-nous toujours comme s'il faisait 17 degrés? Ben non, parce que c'est pas adapté. Parce que parfois on aura beaucoup trop chaud et parfois on aura beaucoup trop froid. Et je crois que le texte biblique nous permet, en tout cas au niveau du genre, d'affirmer à la fois une différence entre hommes et femmes et à la fois de ne pas dire que cette différence-là, elle dirige tout le destin de ce que ça veut dire d'être homme ou d'être femme. Et je crois qu'on a été piégé dans une compréhension biblique, comme on l'a souvent appelé, par la question de la virilité. C'est drôle, hein, on a féminité, masculinité, mais il y a un truc qui existe en plus, ça s'appelle la virilité. Et la virilité, c'est un concept d'une masculinité fondée sur la puissance sur autrui. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'on pourrait se contenter de parler de masculinité et de féminité? Je crois que le texte biblique, il ouvre à ça et il dit à quoi ressemble une masculinité mature et à quoi ressemble une féminité mature. Et elle n'est pas enfermée dans des rôles, elle est enfermée, ou en tout cas elle est conditionnée dans la Bible par le service pour Christ, par un engagement à la suite du Christ. Et ça, c'est quand même une différence qui est quand même assez fondamentale, il me semble, dans les textes. Voilà, je vais m'arrêter là.
Voilà, juste, on peut juste prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qu'on imagine ultra viril. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il dit bien que c'est de sa faiblesse qu'il se glorifie en Christ. Parce que là où il est faible, c'est là qu'il est fort. Et il n'a en fait pas le discours triomphal et fort et puissant. Il dit même qu'il ne sait pas parler, que sa maladie ne s'est jamais écartée de lui, qu'il se montre lui-même sous un jour plutôt, banal. Et en fait, je pense que c'est aussi libérateur pour les hommes de se dire « je ne dois pas toujours jouer ce rôle d'être fort, de guider l'autre, d'avoir autorité, de savoir quoi faire, de trouver les solutions ». Je me dis que ça doit être énormément libérateur pour les uns comme pour les autres.
Et on a un modèle de cette masculinité en Jésus qui est quand même assez détonnante et qui ne cale pas du coup sur nos stéréotypes de genre, qui me semble être vraiment intéressant pour aussi revisiter la masculinité. Parce qu'on a beaucoup focalisé sur ce qui est différent sur la féminité. Et je crois que progressivement, il faut qu'on élargisse, de dire mais qu'est-ce que c'est être femme? Qu'est-ce que c'est être une femme qui glorifie Christ? Qu'est-ce que c'est un homme qui glorifie Christ? À quoi ça ressemble? Et ben, c'est des signaux de maturité, c'est des signaux qu'on retrouve dans tout le Nouveau Testament, qui permettent une croissance, qui permettent une meilleure connaissance, qui permettent une ouverture à l'autre et à ce que Christ est en train de faire. Donc voilà, encore des chemins à parcourir.